Ouvrez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il est les événements qui refusent de se laisser enfermer dans les livres d'histoire ou les dossiers classés, des faits qui, des décennies plus tard, continuent de susciter des interrogations, de nourrir des débats passionnés et de troubler notre rapport au réel, non pas parce qu'ils relèvent nécessairement du fantastique, mais parce qu'ils se situent à la frontière, fragile et mouvante, entre ce que l'on croit savoir et ce que l'on ne parvient pas encore à expliquer. Depuis toujours, l'être humain cherche à donner du sens à ce qui lui échappe. Face à l'inexpliqué, deux attitudes s'affrontent souvent, celle qui rejette d'emblée ce qui dérange nos certitudes et celle qui accepte de questionner, d'examiner, sans conclure trop vite. Dans cet espace-là, entre la croyance aveugle et le scepticisme radical, que s'inscrit Un autre regard, votre émission paranormale sur Radio G Angers. Ce soir, je vous propose un voyage à travers deux affaires, deux récits, deux mystères, chacun à leur manière, interrogent notre rapport à la réalité et à la vérité, notre rapport à la mémoire collective et aux limites de l'explication rationnelle. Deux histoires très différentes, séparées par le temps, la géographie et les contextes culturels, mais reliées par un même fil conducteur, l'incapacité encore aujourd'hui de clore définitivement le dossier. Nous commencerons par les apparitions de l'île Bouchard, survenue en 1947, dans une France encore marquée par les blessures de la Seconde Guerre mondiale. Un épisode singulier, reconnu par l'Église catholique, mais qui continue de susciter interrogations et débats, tant sur la nature des témoignages que sur leur contexte social et spirituel de l'époque. Alors, entre ferveur populaire, enquête religieuse et lecture critique, que peut-on réellement affirmer aujourd'hui ? Nous partirons ensuite vers les montagnes glacées de l'Oural en 1959 pour revenir sur l'affaire du col Dyatlov. 9 jeunes randonneurs expérimentés retrouvés morts dans des conditions extrêmes, parfois déroutantes, après une nuit dont le déroulement exact demeure inconnu. Avalanche, phénomène naturel, erreur humaine, expérimentation militaire. Malgré des décennies d'enquêtes, des rapports officiels et des contre-enquêtes indépendantes, le mystère reste entier et continue d'alimenter les hypothèses les plus diverses. Alors, tout au long de cette émission, il ne s'agira pas de trancher à tout prix, ni de chercher le sensationnel. Notre démarche est autre, revenir aux faits établis, remplacer les témoignages dans leur contexte, distinguer ce qui relève de l'information vérifiée, de l'interprétation, voire de la légende. Alors, interroger sans juger, analyser sans nier, écouter sans adhérer aveuglément. Car au fond, ces affaires nous parlent autant de nous-mêmes que des événements qu'elles décrivent. De notre besoin de comprendre, de croire, de douter. De notre difficulté à accepter que certaines questions restent parfois sans réponse définitive. Alors, bienvenue dans Un autre regard sur Radio G Angers. Ce soir, je vous invite à suspendre vos certitudes et à ouvrir le champ des possibles. Nous allons explorer l'inexpliqué avec rigueur, nuance et curiosité. Alors, lorsque l'on évoque les apparitions mariales en France, certains noms viennent immédiatement à l'esprit. Lourdes, La Salette, Pontmain, des lieux qui sont devenus emblématiques, inscrits durablement dans la mémoire collective. L'île Bouchard, en revanche, demeure quand même plus discrète, presque à la marge, alors même qu'elle fait partie des rares apparitions officiellement reconnues par l'Église catholique au XXe siècle. Et pourtant, cette affaire possède une singularité profonde. Elle ne se déroule ni dans un contexte de miracles spectaculaires, ni autour de messages prophétiques fracassants. Elle naît dans un village ordinaire, porté par des enfants ordinaires, à un moment où la France doute, se reconstruit et craint pour son avenir. C'est précisément cette sobriété, presque déroutante, qui rend l'île Bouchard si troublante. Alors avant de parler de vision, de reconnaissance officielle ou de débat critique, il est nécessaire de comprendre le cadre humain, social et historique dans lequel les événements prennent place. Car l'île Bouchard, c'est pas seulement une histoire d'apparition, c'est aussi le reflet d'une époque, de ses peurs, de ses espérances et de son besoin de sens. Donc c'est avec cette grille de lecture que nous allons aborder cette première partie, en laissant de côté les conclusions hâtives pour revenir pas à pas aux faits tels qu'ils nous ont été rapportés. Alors les apparitions de l'île Bouchard, ça débute le 8 décembre 1947. C'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Quatre jeunes filles, Jacqueline Aubry, 12 ans, Jeannette Blanchard, 11 ans, Laura Gondry, 10 ans, et Nicole Robin, 7 ans, se trouvent dans l'église Saint-Gilles lorsqu'elles affirment voir apparaître une figure féminine lumineuse. Donc les enfants décrivent la belle dame comme bienveillante, sereine, les invitant à prier pour la France et pour les pécheurs. Alors cette apparition mariale apparaît à l'île Bouchard à 10 reprises du lundi 8 au dimanche 14 décembre 1947 devant ses quatre fillettes, puis devant tous ses témoins et ses pèlerins qui sont venus assister. Donc entre le 9 et le 10 décembre, la nouvelle se répand rapidement dans le village. Plusieurs habitants viennent s'assister aux prières, observant les fillettes pendant leur expérience. Les témoins rapportent une atmosphère inhabituelle, un calme et une concertation inhabituelle pour des enfants. Entre le 11 et le 12 décembre, l'information dépasse les frontières de la commune. La presse locale et régionale commence à couvrir l'événement, titrant sur l'apparition d'une Vierge aux enfants de l'île Bouchard. Or, parmi les titres de l'époque, on peut citer « Une vierge apparaît à quatre enfants », donc ça c'est la Nouvelle République du 10 décembre 47, « Les habitants de l'île Bouchard émerveillés par des visions mariales », ça c'est le Petit Courrier le 11 décembre 47, et les Échos Tourangeau, eux titrent « Les apparitions de la Vienne », quatre filles disent avoir vu la Vierge. Donc entre le 13 et le 14 décembre, l'afflux des fidèles devient massif. L'église accueille alors plusieurs milliers de personnes venues parfois de Tours ou de Poitiers. Les enfants, eux, continuent de témoigner avec cohérence. Les visions restent sobres. Pas de miracle visible, pas de message catastrophique, pas de demande spectaculaire. Donc les enfants rapportent des visions qui sont répétitives, avec les mêmes détails. La présence d'une lumière blanche ou dorée, une belle femme vêtue d'une longue robe lumineuse, parfois un ange à ses côtés, des paroles qui sont simples sur la prière et la paix. Alors ces visions sont perçues comme de réelles et tangibles, mais restent quand même invisibles pour la majorité des observateurs adultes. Le 13 décembre 1947, la France catholique titre « Les visions de l'île Bouchard intrigue et fascine » et la Gazette de Tours « L'île Bouchard et ses visions, deux points, le village en émoi ». Donc, comme vous pouvez le voir, les articles soulignent tous l'absence de preuves matérielles tout en rapportant des témoignages des habitants, des visiteurs et des parents des enfants. Certains journalistes notent également la sobriété des messages et l'absence d'un spectacle extraordinaire, ce qui se distingue quand même des apparitions de d'autres lieux mariaux célèbres. Alors ce qui n'a pas eu lieu en tout cas, c'est qu'aucune guérison n'a officiellement été reconnue. Alors malgré la cohérence de ces témoignages, plusieurs questions demeurent. Dans quelle mesure les enfants ont-ils pu être influencés par l'ambiance religieuse locale? La ferveur collective a-t-elle renforcé ou modelé ces visions? Et comment est-ce qu'on peut interpréter ces événements? Est-ce que c'est une expérience spirituelle, un phénomène psychologique ou une simple construction sociale? Donc les faits de l'île Bouchard se présentent comme simples et sobres, mais quand même suffisamment troublants pour attirer l'attention des autorités religieuses, des médias et du public. Et c'est un véritable objet d'étude et de fascination depuis plus de 70 ans. Alors, ce que les premières apparitions de l'île Bouchard sont rapportées, le clergé local adopta immédiatement une attitude de prudence et de vigilance. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas eu d'emballement ni de mise en scène spectaculaire. Le curé de la paroisse, il a compris rapidement que ces événements, aussi intrigants soient-ils, nécessitaient observation méthodique et recueil rigoureux des faits. Donc le curé organisa des auditions séparées des quatre enfants pour vérifier la cohérence de leurs témoignages et s'assurer qu'aucune influence extérieure, volontaire ou inconsciente, n'altérait leur récit. Or ces entretiens avaient lieu dans le calme, à l'écart de la foule grandissante et furent consignés dans des notes qui sont détaillées. Chaque apparition était observée avec soin, en notant le comportement des enfants, leurs paroles exactes, l'attention qu'elles portaient à leur vision. Et en parallèle, le clergé local mit en place une sorte d'organisation simple mais efficace des prières qui permettant à la communauté de participer tout en maintenant un cadre respectueux. Donc l'objectif était donc clair, préserver l'intégrité de l'expérience tout en évitant toute dérive sensationnaliste. Alors rapidement, ce village qui était pourtant petit et discret devient le centre d'un pèlerinage spontané. Donc les habitants des communes voisines, puis des villes encore lointaines comme Tours et Poitiers qui commencent à affluer. L'église catholique, qui est alertée par l'ampleur de l'événement, décide donc de lancer une enquête officielle. Celle-ci comprenait des interrogations répétées et séparées des enfants, donc la collecte des témoignages des adultes mais aussi de pèlerins, l'observation continue du comportement des enfants dans le temps et l'analyse des messages qui ont été transmis par les visions. Alors, dans plusieurs décennies, aucune décision publique définitive ne fut prise, l'Église préféra attendre la maturation des faits et un examen approfondi des dossiers avant toute reconnaissance. Cette prudence témoigne d'une volonté de rigueur scientifique et théologique et non d'un rejet a priori de l'événement. Ce n'est qu'en 2001 que l'évêque de Tours prononça reconnaissance officielle des apparitions, les déclarant, je cite, « dignes de foi ». Alors cette expression signifie que l'Église considère que les événements comme compatibles avec la foi catholique et que les fidèles peuvent les accepter donc comme authentiques. Mais il est important de noter que cette reconnaissance ne constitue pas une preuve scientifique et n'impose aucune croyance. Cette décision met en lumière plusieurs points. 1. La sobriété des apparitions. Les enfants ne relatent ni miracles spectaculaires, ni demandes de gloire personnelle. Ensuite, la cohérence des témoignages. Les récits restent stables, malgré la médiatisation et les pressions extérieures. Et l'approche méthodique de l'Église. Observation prudente, recueil de témoignages et vérification de la constance des faits avant toute reconnaissance. Alors, pour comprendre ces apparitions de l'île Bouchard, il est essentiel de replacer ces événements dans leur contexte historique, social et religieux. Les visions ne surgissent jamais dans le vide. Elles trouvent toujours en fait un terreau propice dans l'esprit des témoins et dans le climat collectif. Donc nous sommes en décembre 1947, à peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France est profondément marquée par les traumatismes de l'occupation et de la libération. Les familles portent encore le poids des pertes et des deuils. La reconstitution matérielle, elle est lente, en logement, alimentation, transport. La fatigue morale et psychologique est immense, accentuée par des privations quotidiennes. C'est dans ce contexte que le besoin de repères et de protection symbolique est crucial. La population rurale en particulier conserve des traditions religieuses fortes qui structurent leur quotidien et leur offrent des réponses à cette angoisse et à cette incertitude. Mais la fin des années 40 s'est aussi marquée par des tensions idéologiques et politiques. Il y a la peur du communisme qui grandit dans la population et au sein des institutions. Les gouvernements français connaissent encore des périodes d'instabilité et la société est en quête de sécurité et de stabilité. Donc, ces facteurs contribuent à créer un terrain fertile pour des expériences perçues comme extraordinaires. Et puis il y a également le climat religieux et spirituel. Donc le catholicisme joue un rôle central dans la vie des villages, comme l'île Bouchard. Donc la foi guide les comportements quotidiens et les valeurs sociales. Les enfants sont élevés dans un environnement où la prière, les saints et la Vierge ont une place très importante. La population cherche donc des signes de soutien du divin et des repères spirituels dans cette période incertaine. Ainsi, les apparitions s'inscrivent donc dans un cadre où la foi est vécue comme une force protectrice et consolatrice et où la religion offre des réponses aux anxiétés collectives. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'île Bouchard est un village qui est modeste et discret, qui est situé sur les bords de la Vienne. Donc il n'y a pas d'antécédent de manifestations extraordinaires. Son ordinaire, c'est des petites maisons, des champs, une petite église paroissiale. Ça contraste forcément avec l'événement qui s'y produit. Et c'est cette sobriété qui contribue à la force du récit. Ça nous fait donner l'extraordinaire peut donc surgir dans le quotidien, ce qui le rend d'autant plus marquant pour la population. Alors en résumé, les apparitions de l'île Bouchard doivent être comprises comme un phénomène inséré dans un contexte précis. Une France encore traumatisée en reconstruction, une société rurale profondément catholique, un climat de tension politique et sociale et un village ordinaire offrant un cadre simple pour un événement hors du commun. Donc c'est ce contexte historique et social qui permet de mieux saisir la réceptivité des habitants et l'impact de ces apparitions, sans pour autant trancher sur leur nature réelle. Il prépare le terrain pour l'étude des témoins directs et des hypothèses qui seront abordées dans la section suivante.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors cette apparition mariale apparaît l'île Bouchard à 10 reprises du lundi 8 au dimanche 14 décembre 1947 devant ses 4 fillets. Alors, analysons les témoins. Donc, les apparitions de l'île Bouchard, ça repose sur le témoignage des 4 jeunes filles âgées de 7 à 12 ans. Et comprendre qui elles sont et comment elles ont rapporté leur vision, c'est crucial pour évaluer la portée et la fiabilité de ces événements. Alors Jacqueline Aubry, 12 ans, c'est l'aînée, elle est réputée calme et réfléchie, souvent considérée comme la porte-parole du groupe. Ensuite, on a 11 ans, donc Jeannette Blanchard, décrite comme sensible et pieuse, elle partage avec sérieux ses visions. On a Laura Gondry, 10 ans, qui est connue pour sa spontanéité et sa capacité à se concentrer dans le recueillement. Et enfin, la petite Nicole Robin, 7 ans, qui est la plus jeune, qui est très impressionnable, mais d'une grande sincérité selon les observateurs. Alors, toutes viennent d'un milieu modeste et profondément catholique, où la prière et la fréquentation de l'église font partie de la vie quotidienne. Aucun signe de recherche de notoriété ou d'influence extérieure n'a été relevé à cette époque. Or, les enfants ont témoigné de manière cohérente, même lorsqu'elles sont interrogées séparément. Elles restent calmes et concentrées, ne cherchent pas à attirer l'attention ou à impressionner les foules. Les autorités religieuses notent l'absence de contradictions majeures dans le récit et un maintien de la routine quotidienne malgré la médiatisation. Tout comme une résistance aux pressions et aux questionnements insistants des adultes et des journalistes. Il y a aussi un point de vigilance, c'est que leur perception peut être influencée par l'imagination et la suggestion, puisqu'elles ont quand même elles sont quand même d'un âge relativement jeune. L'afflux massif de fidèles et l'attention des médias auraient pu influencer consciemment ou non leur récit. Et puis il y a aussi l'imprégnation religieuse, leur éducation et leur culture catholique ont certainement modelé le contenu et le langage de leur vision. Alors malgré ces facteurs, plusieurs éléments plaident en faveur d'une sincérité réelle des enfants. Alors ainsi, elles peuvent être considérées comme des témoins qui sont crédibles d'une expérience qu'ils ont réellement vécue, même si la nature exacte de cette expérience, vision divine, phénomène psychologique ou autre, reste ouverte à interprétation. Donc les 4 filles de l'île Bouchard représentent le cœur de l'événement. Leur sincérité, leur cohérence et leur comportement exemplaire ont permis à l'Église et aux observateurs de considérer les apparitions avec sérieux. Cependant, leur jeune âge et le contexte social et religieux imposent de rester prudent quant à l'interprétation des faits, ouvrant la voie aux diverses hypothèses qu'on va voir maintenant. Alors après avoir exposé les faits, les réactions des autorités, le contexte historico-social et l'analyse de ces témoins, il est temps de s'intéresser aux hypothèses qui ont été avancées pour expliquer ces apparitions d'Île Bouchard. Ces interprétations vont osciller entre approches religieuses, psychologiques et sociologiques. Alors pour l'Église et une partie des fidèles, les apparitions sont authentiques et dignes de foi. Les arguments principaux sont la cohérence des témoignages, la sobriété et la modestie des messages, l'absence de revendications personnelles ou de demandes spectaculaires et la persistance de la foi et de la ferveur populaire autour du phénomène. Ah, dans cette perspective, la belle dame pourrait être interprétée comme une manifestation mariale destinée à rappeler l'importance de la prière et de la conversion dans un contexte social fragile. Alors certains chercheurs et sceptiques, eux, avancent des explications complètement différentes. Ils avancent que les apparitions pourraient être liées à la psychologie des enfants. Donc il y a une très forte influence du milieu religieux, les filles vivent dans un environnement catholique où la Vierge occupe une place centrale. Et puis l'âge des enfants, de 7 à 12 ans, correspond à une période où la frontière entre la réalité et l'imaginaire est encore poreuse. Et puis il parle aussi d'un effet de groupe ou de contagion sociale, c'est-à-dire que les interprétations entre les filles pourraient avoir été renforcées ou modelées les visions, créant un phénomène collectif cohérent. D'autres interprétations se penchent sur ce contexte social et historique qu'on expliquait tout à l'heure. Alors, selon cette lecture, les apparitions peuvent être vues comme une construction sociale et symbolique, révélatrice des besoins, des angoisses et des espoirs d'une communauté en construction. Quoi qu'il en soit, les apparitions, de toute façon, sont réelles pour ceux qui les ont vécues, en particulier les enfants. La nature exacte reste bien sûr ouverte à l'interprétation. Phénomènes surnaturels, expériences psychologiques ou effets socioculturels, les enquêtes ecclésiastiques et la reconnaissance officielle ajoutent une caution institutionnelle, mais ne tranchent pas vraiment la question scientifique ou rationnelle. Donc les apparitions de l'île Bouchard se situent quand même à la croisée entre différentes perspectives, entre foi, psychologie et société. Alors aucune explication unique ne suffit à rendre compte de l'ensemble des faits, et c'est précisément cette multiplicité d'approches qui rend le phénomène quand même fascinant. Ça nous invite à observer avec nuance, à écouter les témoins, à comprendre le contexte et à surtout à suspendre notre jugement définitif. Exactement comme l'esprit d'un autre regard nous le propose. Alors, les séparations de l'île Bouchard, ça demeure un phénomène qui est singulier, hein. Malgré le temps écoulé, plus de 70 ans, elle continue de susciter intérêt, émerveillement et débat, et ce pour plusieurs raisons. La sincérité et la cohérence des témoignages des quatre enfants, la prudence et le sérieux de l'Église, hein, puisqu'on rappelle que ça aboutit à une reconnaissance officielle en 2001. Enfin, l'étude du contexte historique, social et religieux qui éclaire la réceptivité, si on peut dire, des habitants et la propagation du phénomène. La France en reconstitution, la population traumatisée, est profondément croyante, et ce petit village modeste qui offre un cadre parfait pour un événement tout à fait surnaturel. Ainsi, l'île Bouchard ne se réduit pas à une simple anecdote, ça révèle en fait la complexité du rapport humain à l'inexplicable, la puissance des croyances, l'importance du contexte collectif et l'émergence des récits extraordinaires au sein de communautés ordinaires. C'est avec cette richesse de perspective, cette capacité à suspendre notre jugement et à observer avec nuance que nous concluons cette exploration de l'île Bouchard. Les apparitions nous parlent autant de la France, de l'après-guerre, que de la nature humaine elle-même. Et ouvrent la voie à notre prochain mystère, l'affaire du col Dyatlov, où un drame glacé, énigmatique, continue de défier les explications. Mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale bien méritée.
We'll be right back.
Vous êtes sur Un Autre Regard sur Radio G Angers, fréquence 101.5 FM en DAB+, et sur www.radio-g.fr. Ce soir, nous poursuivons notre exploration de l'inexpliqué après les apparitions de l'île Bouchard avec le col Diatlov. On quitte la France, on quitte l'ambiance paisible de ces 10 apparitions de l'île Bouchard pour rejoindre les montagnes glacées de l'Oural en février 1959, où un drame mystérieux a marqué l'histoire de l'alpinisme et du paranormal, l'affaire du col Diatlov. À 9 jeunes randonneurs, tous diplômés de l'université de l'Oural et passionnés de ski et de randonnée, disparaissent dans des conditions qui défient encore aujourd'hui la compréhension. Quand leurs corps sont retrouvés, certains semblent sortis d'un cauchemar. Toiles de tente déchirées, blessures graves et parfois inexpliquées, corps partiellement dévêtus malgré des températures extrêmes. Alors ce qui devait être une simple expédition se transforme en énigme glaciale, alimentant hypothèses rationnelles et spéculations plus mystérieuses. Alors avalanche, phénomène naturel rare, confrontation avec une force inconnue, expérience militaire secrète. Malgré les enquêtes officielles et les études indépendantes, le mystère restera entier. Donc dans les minutes qui suivent, nous allons retracer le déroulement de l'expédition, les découvertes macabres et les rapports d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi le col Diatlov continue de fasciner et de troubler plus de 60 ans après le drame. Alors nous sommes en février 59, au cœur de l'hiver russe dans les montagnes de l'Oural, une chaîne qui est peu hospitalière qui sépare l'Europe de l'Asie. Alors les pentes enneigées sont couvertes de forêts de pins et de sapins et les températures peuvent facilement descendre en dessous de moins 30 degrés avec des vents glaciales qui transpercent les vêtements les plus épais. Alors c'est un terrain que seule une poignée d'alpinistes expérimentés osent affronter à cette période de l'année. L'Oural, lui, est déjà isolé géographiquement et encore plus méconnu et inaccessible à l'époque, surtout dans ces régions qui sont septentrionales où se trouve le fameux col qui portera bientôt le nom de Diatlov. Alors les cartes sont sommaires, la neige recouvre les repères naturels et le climat change très rapidement, passant d'un ciel clair et silencieux à des tempêtes aveuglantes en quelques heures. Bref, les conditions, elles sont carrément hostiles et impitoyables. Un décor parfait pour un drame qui ne laissera aucune chance à l'impréparé. Alors le groupe de ces 9 randonneurs était composé de 9 étudiants de l'Université Polytechnique de l'Oural. Ils étaient tous âgés donc d'une vingtaine d'années, passionnés de ski, de randonnée et d'alpinisme. Et chacun avait quand même plusieurs expéditions à son actif. Alors souvent dans des conditions difficiles, ce qui faisait que ce groupe de randonneurs était quand même assez méthodique. Donc on avait Igor Diatlov, 23 ans, qui est le leader de l'expédition et c'est un étudiant en génie radioélectrique, qui est connu pour son calme et son sens de l'organisation. On avait aussi donc Zinaïda Kolmogorova, donc une alpiniste aguerrie, qui était, elle, appréciée par sa prudence et sa maîtrise technique du ski de montagne. Lyudmila Dubinina, 20 ans, sportive polyvalente, habituée aux randonnées hivernales, connue pour sa discipline et sa résistance au froid. Yuri Doroshenko, 21 ans, robuste et courageuse, qui était lui souvent chargé de la logistique et de l'orientation. Son alter ego, Yuri Krivoninchenko, 23 ans, étudiant physique, lui était calme et méthodique, il était apprécié surtout pour sa rationalité et son sens de l'observation. On avait Alexander Kolevatov, 24 ans, lui était très expérimenté en ski de fond, il était volontaire aussi pour les tâches les plus exigeantes. On avait une autre Zinaïda, donc là, Zinaïda Ivanova, 24 ans, qui était motivée et disciplinée, qui était habituée elle, aux expéditions collectives. Et puis, il nous reste deux membres, donc Nikolai Thibault-Brignol, qui est un passionné de montagne et de nature, curieux et attentif aux conditions de terrain, il avait 24 ans. Simon Zolotaryov, 38 ans, qui était le plus âgé du groupe, qui était un peu le guide et le mentor, qui était un garant de sécurité collective. Donc, ce mélange de jeunes étudiants motivés et d'expérience encadrante faisait de ce groupe, en fait, un ensemble qui était qualifié, conscient des risques et capable de s'adapter à des conditions hivernales extrêmes. Alors, pourquoi diable partent-ils en expédition? Eh ben, l'expédition avait pour but de traverser les montagnes nord de l'Oural en hiver, de réaliser un itinéraire difficile mais réalisable et de collecter des données pour des cartes et des rapports de randonnée. Donc, l'objectif était à la fois sportif et scientifique, tester la capacité du groupe dans un environnement hostile tout en renforçant leur expérience alpine. Le parcours prévu, lui, comprenait plusieurs étapes qui étaient planifiées avec des bivouacs dans des esprits naturels ou sous tentes, des points de repère pour la navigation et des mesures de temps pour les déplacements. L'itinéraire lui était soigneusement tracé sur des cartes sommaires mais fiables et devait mener les randonneurs à travers des cols et des vallées en évitant les zones qui sont réputées dangereuses pour les avalanches ou les crevasses. Avant le départ, les randonneurs avaient prévu tout le matériel nécessaire pour affronter cet hiver rigoureux de l'Oural. Il y avait des tentes qui étaient renforcées pour le vent et la neige, des équipements de ski, des vêtements thermiques, de la nourriture lyophilisée. Des outils pour se protéger contre le froid extrême, chaque membre connaissait bien son rôle et savait aussi comment réagir en cas d'urgence. Les conditions météorologiques initiales étaient quand même extrêmes mais stables, c'est-à-dire on avait une température qui était descendant à moins 25, un vent qui était modéré, des neiges abondantes mais non encore dangereuses. Et les prévisions indiquaient une semaine de temps froid mais sec, ce qui donna confiance au groupe pour commencer son expédition. Alors ce qu'il faut quand même noter, c'est que l'Oural a des montagnes abruptes et imprévisibles, et ça n'a pas tardé effectivement à déjouer les calculs les plus prudents, transformant cette aventure planifiée en un mystère tragique et irréversible. Ce qui était une simple expédition d'hiver se transforme bientôt en énigme glaciale et tragique. Vous êtes sur un autre regard sur Radio G&G, fréquence 101.5 FM, en DAB+, et sur www.radio-g.fr. Ce soir, nous poursuivons notre exploration de l'inexpliqué avec le col Dyatlov. Alors ce qu'on sait des derniers contacts connus, c'est que l'expédition s'est déroulée sans souci, selon le plan jusqu'au 1er février 1959, date à laquelle les randonneurs étaient censés rejoindre leur prochaine étape. Les communications étaient limitées à des notes laissées aux gardes forestiers et aux stations de relais, car à cette époque, bien sûr, la région était totalement isolée. Le dernier contact officiel avec le monde extérieur a été enregistré par un guide local, qui a reçu un message indiquant que le groupe se trouvait en bonne santé et progressait comme prévu. Alors ce qui suit pourtant sera les débuts de ce drame. Les randonneurs du coup ne donnent plus signe de vie et le retard commence à inquiéter les autorités et les familles. Donc lorsque les randonneurs ne reviennent pas à la date prévue, une alerte est déclenchée. Les premières équipes de recherche composées de militaires locaux et de guides expérimentés partent à leur recherche en longeant les pistes prévues et les itinéraires connus. Rapidement, la situation devient préoccupante car la neige est très profonde, le vent glacial complique la progression. Mais le temps presse car chaque heure passée dans ces conditions extrêmes diminue drastiquement les chances de survie. Premier chercheur trouve des traces de pas dans la neige, certaines semblent montrer que les randonneurs ont quitté leur tente précipitamment, parfois pieds nus. Alors ces indices déroutent les enquêteurs et font immédiatement naître des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi ont-ils ainsi quitté leur abri sécurisé? Mais très vite, la nature des indices trouvés sur place donc laisse entrevoir du coup que l'histoire est loin d'une un simple accident de montagne. Donc les recherches aboutissent finalement à la découverte de la tente le 26 février 1959, près du fameux col Dyatlov, soit 9 jours après le début de l'expédition. La tente des randonneurs, du coup, est fortement endommagée, déchirée de l'intérieur sur le versant d'une pente enneigée. La structure, du coup, qui aurait normalement dû offrir une protection contre les vents violents et le froid extrême, semble avoir été abandonnée précipitamment. Alors, si on regarde un peu plus en détail, la toile de tente était déchirée de l'intérieur, comme si les occupants avaient voulu sortir rapidement par-dessus les parois plutôt que par l'entrée prévue. Donc, certaines coutures ont été arrachées et les piquets tordus ou déplacés laissent penser à un mouvement frénétique, un vrai cas de panique. À l'intérieur, le matériel et les effets personnels étaient laissés totalement en désordre, mais certains objets de valeur et des équipements essentiels sont restés sur place, suggérant que les randonneurs n'avaient pas prévu de partir pour de bon. Il y a également des traces dans la neige, des empreintes montrent une dispersion irrégulière. Certaines personnes, pieds nus ou en sous-vêtements, se dirigeant dans des directions différentes. La profondeur et la direction des traces indiquent que la sortie s'est faite dans la panique et dans l'urgence. Et aucun élément ne laisse penser en fait à une intrusion humaine ou à une attaque externe renforçant le mystère sur la raison pour laquelle le groupe a tout d'un coup quitté sa tente. Donc un journal soviétique, l'Uralskaya Pravda, titrera alors « Mystère dans les montagnes de l'Oural, 9 jeunes alpinistes portés disparus ». Alors cette observation, c'est l'un des premiers éléments à alimenter les théories les plus étranges autour de ce drame. Mais qu'est-ce qui a bien pu effrayer autant des randonneurs aussi expérimentés et les pousser à abandonner leur abri en pleine nuit et par un froid mortel en sous-vêtements? Alors les deux premiers corps sont retrouvés le 26 février. Donc on retrouve deux corps à proximité immédiate de la tente, emmitouflés dans des vêtements de fortune présentant des signes d'hypothermie extrême, mais pas de blessures traumatiques. Dans les semaines suivantes, les autres corps sont découverts à plusieurs centaines de mètres plus bas, dans des positions étranges et parfois partiellement dévêtus, Donc exposés au froid intense, certains corps présentaient des blessures graves, des fractures multiples du crâne, du thorax, comparables à celles qu'on pouvait retrouver dans un accident de voiture, mais sans signe de lutte ou de traces humaines à proximité. Le journal Izvestia rapporte « Les corps des alpinistes retrouvés dans des positions inexplicables, de point le mystère s'épaissit ». Vous pensez bien que ces observations alimentent rapidement des spéculations et l'inquiétude monte parmi la population et les autorités locales. Face à l'ampleur du drame, les autorités soviétiques ouvrent immédiatement du coup, une enquête officielle qui est dirigée par le ministère de l'Intérieur. Donc l'expédition bien documentée et suivie attire rapidement l'attention des médias et le gouvernement du coup souhaite quand même déterminer si la mort des 9 randonneurs résulte d'un accident, d'une catastrophe ou d'une intervention humaine. Donc un comité d'enquête soviétique du coup est nommé et il conclura que l'hypothermie reste la cause directe de la mort de plusieurs membres du groupe. Deuxièmement, que la cause des blessures graves sur certains corps reste inexpliquée. Et troisièmement, qu'aucune trace d'agression humaine externe n'a été relevée. Donc le premier rapport officiel, publié dans des documents internes et partiellement déclassifié, indique également dans des conditions météorologiques et le terrain difficile, on peut jouer un rôle, mais qui ne suffisent pas à expliquer le comportement étrange du groupe. Donc ces éléments font dire à certains chercheurs contemporains que le drame dépasse le simple accident de montagne et ouvre la voie à de nombreuses hypothèses rationnelles et certaines même mystérieuses. Donc les premiers rapports indiquent que les recherches et les inspections sur le terrain sont rigoureusement menées avec des recherches de traces, des photographies et des mesures des blessures. Les enquêteurs du coup envisagent plusieurs cas possibles. Alors, ils étaient partis avec l'idée d'une avalanche, donc la théorie la plus communément acceptée au départ expliquant la fuite précipitée de la tente et cette exposition au froid. Cependant, les conditions du terrain et l'absence de débris d'avalanche significatifs rendent cette hypothèse quand même partiellement insatisfaisante. Deuxième point, le froid extrême et le vent violent auraient pu provoquer un mouvement irrationnel du groupe conduisant à la mort par gelure. Et puis, eux aussi, du coup, tablent sur l'erreur humaine ou la désorientation, le fatigue, le stress, la désorientation pour expliquer cette sortie désordonnée et la dispersion des corps. Donc, le rapport final du comité d'enquête soviétique, du coup, qui était partiellement déclassifié, ce rapport donne un petit peu la même conclusion que l'autre, finalement. Donc, que la majorité des randonneurs sont morts d'hypothermie, que les blessures traumatiques graves, du coup, restent inexpliquées, qu'aucune trace de lutte, de sabotage ou d'agression humaine directe n'est détectée, et que ce phénomène reste donc partiellement mystérieux, la combinaison du froid et l'environnement montagneux hostile ne suffisent pas à tout expliquer. Alors ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les investigations sur place ont quand même été limitées aussi par le climat, par le temps et l'éloignement du site. La documentation photographique était incomplète et certaines observations initiales n'ont pas été suffisamment consignées. Donc le rapport officiel laisse quand même planer une part d'ombre qui nourrit depuis plus de 60 ans spéculation et recherche indépendante. Donc elle ne permet pas de totalement résoudre ce mystère. Et je vous propose, du coup, avant de faire voir les théories, une petite pause musicale.
Откровенно
Alors vous êtes sur Radio G Angers, vous êtes dans l'émission Paranormal à notre regard. On étudie l'affaire du Col d'Yatlov, donc c'est 9 randonneurs expérimentés qui partent du coup faire de l'alpinisme dans les montagnes de l'Oural et qui ne reviennent pas. Donc on a vu que le rapport officiel nous donnait une toile de tente déchirée de l'intérieur, des gens qui se sont littéralement enfuis, pris de panique, des corps qui ont commencé à être retrouvés dans des positions extrêmement bizarres, des vêtus. Certains sont effectivement morts de froid, mais que s'est-il passé ? On va voir maintenant les théories. Alors depuis la fin de l'enquête soviétique, de nombreux chercheurs et experts ont tenté de décrypter en tout cas cette affaire du Col d'Yatlov, en s'appuyant sur des méthodes scientifiques et sur l'analyse des faits connus. Alors bien sûr, une des premières théories qui avait été évoquée, c'était l'avalanche partielle. Alors certaines études récentes suggèrent qu'un type spécifique d'avalanche, qu'on appelle l'avalanche de plaques, pourrait expliquer la panique du groupe. Donc cette hypothèse, elle repose sur la notion de la force énorme concentrée sur une toute petite zone qui serait suffisante pour endommager la tente et provoquer cette fuite précipitée. Des expériences qui ont été menées en 2017 par des chercheurs russes ont montré que ce type d'avalanche pouvait se produire sans laisser de traces classiques de neige déplacées sur le terrain, donc ce qui pourrait bien correspondre aux observations. Alors, autre fait, on a l'hypothermie et la désorientation, donc le froid extrême combiné à ce vent violent et à la fatigue aurait pu provoquer des comportements totalement irrationnels. Donc les randonneurs désorientés, voire en état de choc, auraient pu quitter la tente pour tenter de trouver un refuge, mais se serait rapidement perdu dans la neige profonde, menant à la mort du coup. Après les autres théories, on va dire alternatives, on a une théorie militaire à coup d'expérimentation secrète, donc une autre série d'hypothèses repose sur le contexte historique de la Russie soviétique des années 50, une époque de secrets militaires et d'expérimentation dans ces zones reculées de l'Oural. Donc certains chercheurs évoquent la possibilité que les randonneurs étaient involontairement exposés à des tests d'armes expérimentales, des essais de détonateurs ou d'autres explosifs. Donc les blessures graves sur certains corps, comparables à des impacts très puissants mais sans signe extérieur de lutte, pourraient théoriquement résulter d'une exposition à des ondes de choc ou à une genre de force extrême générée par l'homme. Alors, ces hypothèses sont séduisantes mais quand même hautement spéculatives et n'ont jamais été confirmées par des documents officiels, vous vous en doutez bien. Et puis il y a la lot de théories paranormales et inexpliquées. Donc le mystère du Col d'Yatlov a également suscité de nombreuses interprétations paranormales. Donc certains parlent de rencontres avec une créature locale, on va dire le cousin du Yeti, l'Almasti, qui est capable de provoquer la panique et des blessures observées. Cette hypothèse s'appuie sur des témoignages anecdotiques et des traditions locales concernant ces êtres mystérieux dans la montagne qu'il ne vaut mieux pas mettre en colère. D'autres évoquent des forces naturelles ou des phénomènes inexpliqués comme des anomalies atmosphériques ou des ondes soniques qui auraient pu affecter le comportement et la perception du groupe. Et les médias populaires et les documentaires sont largement amplifient en fait largement ces théories et contribuent à donner cette dimension mythique à l'affaire. Alors les chercheurs modernes continuent de revisiter le drame avec les technologies actuelles, à coup de modélisation informatique, terrain, reconstitution des avalanches, des études physiologiques sur l'hypothermie, analyse aussi des cartes météorologiques de l'époque. En fait, ces travaux montrent que plusieurs facteurs combinés, conditions climatiques extrêmes, panique collective, désorientation, fatigue, pourraient suffire à expliquer la tragédie, même si certaines anomalies restent inexpliquées. Comme le note le journaliste et spécialiste de l'alpinisme Adam Dingle, le Col d'Yatlov n'a jamais été résolu à 100%, mais la combinaison de facteurs naturels et humains offre une explication crédible, sans pour autant dissiper complètement l'aura de mystère. Donc ça vient de son livre The Yatlov Pass Mystery, sorti en 2019. Alors cette combinaison de théories scientifiques, militaires et paranormales montre quand même à quel point ce drame fascine encore. Il illustre quand même la limite entre le réel tangible et l'inexplicable. Et c'est ce mélange qui continue de captiver les chercheurs, les journalistes et les passionnés de mystères à travers le monde. Alors pourquoi est-ce que ça continue à nous passionner ? Eh bien on sait que déjà on est dans un contexte politique et social quand même un petit peu particulier. La communication officielle a été quand même très limitée, ce qui a alimenté les spéculations et les rumeurs parmi la population et la presse locale. Ces conditions d'isolement du terrain et le contrôle de l'information ont vraiment contribué à l'opacité des premières conclusions qui ont laissé le champ libre, on va dire, aux théories, aux interprétations, qu'elles soient rationnelles, militaires ou totalement paranormales. Et puis le contexte culturel soviétique qui valorisait l'ordre et le contrôle et la notion de panique collective ou d'événements inexplicables pouvait quand même être difficile à admettre officiellement, ce qui explique pourquoi certaines lacunes et explique surtout cette prudence dans le rapport final. Donc en résumé, l'affaire Diatlov ne peut pas être comprise uniquement à travers les faits bruts. L'histoire, la politique et la culture de l'époque jouent quand même un rôle majeur dans la perception et la documentation disponible de ce drame. Donc l'affaire du col Diatlov reste l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle, un mélange entre tragédie, mystère et fascination pour l'inexplicable. Mais après 60 ans de recherche, d'analyse scientifique, de spéculation, aucune explication unique ne parvient à rendre compte de tous les éléments du drame. La fuite précipitée de la tente, les blessures mystérieuses, l'état partiellement dévêtu de certains corps et la dispersion irrégulière des traces dans la neige, voilà, ça ne va pas. Ce qui frappe le plus, c'est quand même le contraste entre la discipline et l'expérience des randonneurs et le comportement étrange observé lors du drame. Hein, c'était pas des novices. Cette tension entre la rationalité et l'irrationnel est au cœur de ce mystère et c'est ce qui continue de captiver chercheurs, journalistes et passionnés depuis plus de 60 ans. Donc le col Diatlov s'est devenu un symbole de l'inconnu, un lieu où la montagne, le froid et l'isolement semblent jouer un rôle presque surnaturel, imposant ses règles et ses secrets. Et comme le souligne le chercheur russe Igor Boutsev, cette tragédie dépasse la simple fatalité. Elle nous rappelle combien l'homme peut être vulnérable face aux forces de la nature et aux limites de sa compréhension. Alors pour nous, auditeurs, cette histoire est une invitation à suspendre nos certitudes et à accepter qu'il existe des zones d'ombre que la science et la raison ne parviennent pas toujours à éclairer. Elle illustre aussi la fragilité de la vie humaine face à l'immensité et à l'imprévisibilité de la nature. Ainsi, le col Diatlov continue de fasciner, d'inspirer entre réalité et légende. Elle nous rappelle que certaines énigmes ne se résolvent jamais complètement, mais nous offre le privilège de réfléchir et de nous interroger sur les limites de notre compréhension du monde.
Everybody else does.
ce soir, dans un autre regard, vous avez mené deux univers très différents, mais tous deux marqués par le mystère et l'inexplicable. On a commencé notre voyage par l'île Bouchard, dans la Vienne, là où les apparitions de la Vierge, les dix fameuses apparitions, ont bouleversé un village et laissé une empreinte durable dans l'histoire religieuse et populaire. Donc entre ferveur, débat, témoignages contradictoires et scepticisme, cette histoire nous rappelle combien le réel peut se transformer en légende et combien les événements extraordinaires interrogent notre perception du monde. Puis nous avons traversé les montagnes glacées de l'Oural pour nous plonger dans la tragédie du col Yatlov. 9 jeunes randonneurs, disciplinés, expérimentés, ont disparu dans des conditions mystérieuses, laissant derrière eux des indices troublants et un tas de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. Alors les tentatives d'explication, qu'elles soient rationnelles, militaires ou même un peu paranormales, montrent à quel point certaines énigmes dépassent notre capacité à tout comprendre. Ces deux histoires, si différentes dans leur forme et leur contexte, partagent en tout cas une même fascination. L'homme face à l'inexplicable. Elle nous rappelle que parfois, la réalité dépasse l'imagination et que la curiosité et l'émerveillement sont des portes ouvertes vers des mondes que nous n'osons qu'effleurer. Alors, rendez-vous le 10 mars prochain à 21h sur Radio G Angers, 101.5 FM ou en DAB ou sur notre site internet www.radio-g.fr pour une émission spéciale consacrée à Robert Charroux, le Van Daniken français, donc le mystérieux auteur et passionné des civilisations disparues et d'énigmes historiques. Pour cette émission exceptionnelle, je vais accueillir de nouveau Jonathan Ginet, alors auteur, conférencier, chercheur du paranormal, qui nous fera plonger dans l'univers fascinant de Robert Charroux, entre recherches, hypothèses audacieuses et récits surprenants. Une exploration qui promet mystère, curiosité et découvertes étonnantes pour continuer à porter un autre regard sur l'histoire et l'inexpliqué. Alors que nous refermons ce chapitre de l'inconnu, souvenons-nous que certaines questions n'attendent pas nécessairement de réponse, mais qu'elles méritent notre attention, notre respect et un autre regard. Prenez soin de vous.
N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.